Bonjour à toutes et à tous, vous reconnaissez le générique de En revenant de l'Expo, l'introduction qui est toujours bonjour à toutes et à tous, donc vous êtes bien En revenant de l'Expo, nous sommes bien vendredi, il est bien 14h, et quand vous réécouterez l'émission dimanche, et bien il sera toujours vendredi, il sera toujours 14h, le temps n'aura pas passé. Aujourd'hui je vous propose une émission à trois voix sur Radio FM+, à quatre avec la mienne. Nous allons passer un long moment avec Thibault Loucheux, l'un des fondateurs de Snobinard, une revue absolument magnifique, enfin que moi je trouve magnifique. Et le reste du temps avec Anne-Sandra Keff et Caroline Godenzi. Bonjour à vous trois. Merci à Adrien qui assure la réalisation de cette émission aujourd'hui. Thibault, Anne-Sandra, Caroline, merci d'être là. Bonjour.
Merci de m'en recevoir.
Voilà, c'est un cœur parfait. vous avez un point commun, une particulière appétence pour l'art, les artistes et les gens qui, comme vous, s'y intéressent et parfois font même plus que de s'y intéresser, collectionnent, font eux-mêmes de la peinture, de la sculpture, fabriquent des objets. Donc je vais commencer peut-être par Thibault. J'espère que les filles ne m'en voudront pas.
Aucun problème.
Mais Anne-Sandra, vous pouvez évidemment intervenir à tout moment et puis on vous donnera la parole plus longuement en fin d'émission. Thibault, vous êtes le cofondateur de Snobinard. Alors, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, qui est l'autre cofondateur? Et deuxièmement, on va parler du titre, parce que ça m'a interpellé. On en a parlé ensemble, mais ça m'a interpellé.
Alors, Snobinard est né par trois personnes, en fait. Donc, il y a Peter Avondo, qui est associé, et Margot Aurel. Mais Margot ne participe pas vraiment au magazine, elle participe mais de manière plus ponctuelle, à travers des photos ou d'autres choses. Mais on va dire qu'on est vraiment deux à s'occuper du magazine, donc Peter et moi-même. Et pourquoi Snobinard? Snobinard, c'est un nom que j'ai trouvé sympathique en enlevant la dernière lettre, en la changeant, en remplaçant le D par le T. Et je trouvais que ce mot devenait sympathique en changeant cette lettre-là. Après, il y a une histoire un peu d'autodérision, il y a une histoire aussi un petit peu de référence.
Alors, c'est ça que je voudrais qu'on parle deux secondes, parce que c'est quand même intéressant, les choses n'arrivent pas, les mots ne viennent pas comme ça par hasard. Donc moi, quand j'étais petite, que mes parents disaient « oui, un tel, c'est un snobinard », il y avait un côté très péjoratif. C'est pas du tout ça que vous avez voulu dire?
Non, alors évidemment, ça veut dire sans noblesse au départ. C'est pas du tout notre idée pour le magazine, évidemment. On essaie de faire quelque chose de qualitatif et quelque chose qui, au contraire, est accessible pour tout le monde. Après, du coup, voilà, il y avait un côté un petit peu référence. Effectivement, moi, j'aime beaucoup Oscar Wilde, Frédéric Becbédé, Gainsbourg. Voilà, cet univers-là, un peu Baudelaire aussi. Quelque chose qui se rapproche un petit peu du snobisme sans pour autant voilà, enlever le côté qualitatif.
Un côté dandy,
tout à fait.
Voilà, que vous portez raison. Sur vous d'ailleurs. Pour moi, un dandy, c'est pas un snob.
Oui, après, disons que c'est peut-être des cousins, en tout cas.
Moderne, voilà. Cousins modernes.
Disons que ça en fait peut-être un petit peu partie ou pas. Enfin bon, en tout cas, c'est des questions qu'on peut se poser quand on travaille dessus. Moi, c'est vrai que le dandysme, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, je pense que ça en fait un petit peu partie.
Alors, j'avais noté quand on avait commencé à travailler sur cette émission, parce que bon, ce sont des émissions, évidemment, on se rencontre avant, on se parle longuement. Je cache rien, hein, moi, de ce que je fais. Mais je pense que c'est bien aussi pour les auditeurs, parce qu'on arrive souvent rapidement, plus ou moins d'ailleurs, à l'essentiel. Vous m'avez dit, quand on a préparé l'émission, c'est une phrase que j'ai notée, il faudrait construire sa vie comme une œuvre d'art. Mais encore, je pense que ça fait allusion à cette histoire de dandysme.
Tout à fait, le dandysme, ça fait partie, c'est une des définitions du dandysme, si vous voulez. C'est quelque chose qu'a pu dire Baudelaire, ça se rapproche toujours de ces références-là. C'est des gens qui, pour moi, sont passionnants. Construire sa vie comme une œuvre d'art, c'est vraiment prendre conscience aussi que sa vie a une fin. Et donc faire en sorte que chaque moment soit important, comme dirait François Truffaut, faire les petites choses comme si elles étaient grandes.
Tout à fait. Alors, je suppose que c'est ce que vous appliquez pratiquement au quotidien. Vous, quand vous faites quelque chose, vous ne savez rien faire à moitié ou mal.
En fait, si, évidemment, je pense que tout le monde a le droit de se tromper. Et franchement, j'aurais
c'est
pas fait...
C'est autre chose, se tromper.
Oui, mais on peut faire aussi des choses mal.
Mettre toute la sincérité et tout son intérêt dans la chose qu'on fait au moment où on le fait.
Ah oui, ça par contre, effectivement, dès l'école, dès le collège, j'ai très rapidement choisi les matières qui m'intéressaient et celles qui ne m'intéressaient pas du tout. Et effectivement, quand il y a quelque chose qui me passionne, effectivement, je vais jusqu'au bout. Après, c'est une question de passion aussi. Il y en a d'autres qui vont le faire dans d'autres domaines. Mais je pense qu'effectivement, pour réussir quelque chose, il faut s'y donner corps et âme.
Donc la vie pourrait être une œuvre d'art, mais chaque moment aussi que l'on crée, dans ce qui nous intéresse, serait aussi une œuvre, d'une certaine façon.
Oui, tout à fait.
Avec un début, une fin et une constitution bien faite. Cela dit, j'aimerais bien que vous nous disiez comment vous êtes arrivé à Snobinard. Alors, c'est un long chemin. Si on regarde au début, vous étiez plutôt cinéma.
Oui, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Je pense, comme tout le monde, j'ai été bercé par, comme beaucoup de ma génération, par Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter. Voilà. Et bon, petit à petit, en fait, bon, curiosité fait qu'on se dirige vers des liens, en fait, vers des acteurs qui nous intéressent. Le Seigneur des Anneaux, on va aller voir ce qu'a fait Viggo Mortensen ou ce qu'a fait le réalisateur Peter Jackson, etc. Petit à petit, en fait, on se fait une culture. Puis bon, effectivement, j'ai fait une fac de cinéma, une fac d'histoire, puis une fac de cinéma. Quelques films qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et voilà, donc c'est vrai que je suis plutôt au cinéma au départ.
Ça s'est pas arrêté là, mais justement je trouvais qu'il y avait quelque chose dans ce qu'on a dit précédemment sur cette histoire d'œuvre d'art, sur ce côté dandy. Il y a un romantisme aussi qu'on retrouve au cinéma, et parfois certains films sont de véritables œuvres d'art, justement constituées du début jusqu'à la fin de petits morceaux qui sont tous parfaits.
Oui, bah de toute façon, le cinéma, en fait, l'avantage avec le cinéma, c'est que ça regroupe vraiment tous les arts, si vous voulez. Vous avez de la musique, vous avez parfois même de la peinture, quand vous vous arrêtez sur un plan et que vous devez l'analyser. Donc il y a forcément, effectivement, moi j'ai appris l'analyse filmique en fac, à Paul Valéry, et c'est vrai que voilà, il y a ce côté...
Est-ce qu'on analyse un plan d'un film comme on analyse un tableau ?
Je pense, quelque part, un petit peu, oui. Pas totalement, parce qu'évidemment, c'est pas tout à fait les mêmes médiums, mais je pense effectivement qu'une fois qu'on a les codes, c'est plus facile. Surtout quand c'est le cinéma et que ça regroupe justement tous ces arts-là.
Comment vous passez à la rédaction ? Parce que du cinéma et des études que vous avez faites à rédiger, à devenir journaliste en fait, quelle est la passerelle ? Comment ça se passe ?
Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ?
Quelle est la passerelle entre vos études de cinéma et d'histoire pour devenir journaliste ? En fait, c'est justement c'est par ce biais-là que vous êtes arrivé à écrire pour...
Je pense que l'écriture, ça a toujours été aussi une passion. J'ai toujours écrit à côté, j'ai publié quelques livres aussi. Et puis le journalisme, tout ça, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu la même famille en fait. On s'intéresse aux autres, on essaie d'écrire. Alors, écrire des romans, c'est plus écrire sur soi. Écrire pour le journalisme, c'est plutôt s'intéresser aux autres. Je pense que ça se complète en fait. Et donc voilà, on apprend à écrire aussi en fac pour que ça se développe après aussi sur le magazine. Il y en a qui ont besoin d'un parcours autodidacte, il y en a d'autres qui ont besoin d'apprendre. En fait, ça se fait assez naturellement, l'écriture, à partir du moment où on a les codes.
On a les codes qui sont des codes de...
Des codes, des codes d'orthographe, de grammaire.
D'accord, mais il n'y a pas que ça dans l'écriture, justement. J'allais dire les codes de... Comment, effectivement, quand on s'adresse au public, il y a une façon de le faire.
Bien sûr.
Et vous m'avez dit tout à l'heure que Snobinard, c'était un magazine... qui, moi, je trouve très beau, qui est très bien écrit. Et il faut quand même que ça traverse votre pensée pour arriver jusqu'à celle du lecteur. Et vous dites que vous faites quelque chose, vous souhaitez faire quelque chose de facilement lisible, c'est-à-dire qui est ouvert à tout le monde. Comment on fait ça ? Ce n'est pas simplement de l'orthographe ou de la grammaire.
Comment on transmet ça ? Si vous voulez, ça a été un cheminement, en fait, pour Snobinard. Là, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez, l'article qu'on écrit, c'est vraiment des articles passion. C'est-à-dire que moi, je m'occupe plus de la partie art contemporain. Peter va écrire plus la partie spectacle vivant. Un petit peu cinéma, même si aussi je le confie un petit peu. Mais voilà, maintenant, je me suis plus centré sur l'art contemporain et Peter sur le spectacle vivant. On s'est vraiment mis sur nos domaines d'expertise pour pouvoir provoquer un intérêt chez le lecteur. Ce qu'on ne faisait pas forcément au début, où on faisait pas mal d'art de vivre aussi, mais si vous voulez, on restait un petit peu en surface. Forcément, on s'y intéressait et on était légitime parce qu'on s'intéressait à ce qu'on nous racontait. Mais je pense qu'en allant plus en profondeur, c'est plus intéressant pour le lecteur et c'est plus intéressant aussi pour nous d'écrire des choses qui nous animent en fait.
Et puis vous avez, j'ai l'impression, l'habitude de faire des dossiers. Donc ça veut dire que c'est des choses qui se préparent très très en amont, qui s'analysent et j'allais dire qui se traduisent. En fait, pour que ce soit accessible, vous digérez beaucoup de choses pour régurgiter, c'est pas très joli, mais l'essentiel est de façon à ce que ce soit acceptable pour les gens qui vont le lire, en tout cas lisible.
Si vous voulez, le travail de critique, en fait, c'est de regarder un petit peu ce qui se fait aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, sur le magazine. par exemple, à l'époque de l'exposition Immortelle au MoCo, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de figurations à cette époque-là. Il y avait aussi Martial Reiss au musée Paul Valéry, d'autres expositions. Donc l'idée, c'est pourquoi, à ce moment-là, il y a de la figuration qui sort. C'est justement notre travail d'essayer de comprendre pourquoi, après cet été, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'expositions autour du nouveau réalisme. Pourquoi le nouveau réalisme est ressorti comme ça dans les musées. Là, dernièrement, j'ai fait aussi un dossier sur l'hyperréalisme. L'hyperréalisme, il y a une superbe exposition à Nantes, une belle exposition à La Parcelle aussi, une exposition à Paris, l'exposition Ron Mueck. Pourquoi 2023, retour de l'hyperréalisme. Voilà. Donc nous, l'idée, c'est de se poser ces questions-là et d'essayer d'apporter des réponses.
Mais c'est aussi peut-être faire découvrir ce qu'est l'hyperréalisme, pas simplement en disant en ce moment on fait beaucoup d'expositions autour de ça. Beaucoup de gens ne savent pas forcément ce que c'est que l'hyperréalisme, et vu la distribution de votre magazine qui est vraiment partout, enfin, rares sont ceux qui connaissent pas Snobinard, même s'ils ne l'ont pas lu, ils l'ont vu, les couvertures sont toujours très marquantes. Il faut expliquer aux gens ce que c'est. Donc ça, c'est pareil, il faut trouver les mots, la pédagogie d'une certaine façon.
Bien sûr, après le travail théorique, il y a l'historique qui vient avec, donc on fait un historique du courant. On explique ce qui s'est passé, qui sont les artistes qui ont vraiment fondé, lesquels ont repris un petit peu. Là, dans le dernier numéro, du coup, avec l'hyperréalisme, vous pourrez trouver une interview d'Elisabeth Dénès, qui participe, elle,
en tant que...
À ce courant,
oui. Très connue.
Très connue, tout à fait. Alors, donc, l'idée, c'est aussi de rencontrer les artistes et d'essayer de trouver des clés par le dialogue.
Intéressant aussi parce que Elisabeth Dénès, elle a une œuvre personnelle. Donc, d'artistes hyper réalistes, c'est vraiment troublant, enfin confondant, je crois qu'on peut dire ça. Mais elle a aussi un travail en lien avec l'archéologie et la reconstitution des visages de certains personnages disparus, et en particulier de nos ancêtres très 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 lointains. Et c'est pas inintéressant non plus, parce que là, elle touche à la science et elle touche effectivement à la pédagogie, puisque ça permet à des gens de voir ce que pouvaient être nos ancêtres il y a 17 ou 20 000 ans.
Tout à fait. C'est ce qui est passionnant dans son travail, si vous voulez. Pendant, je crois, 20 ans, deux décennies, elle a réussi à travailler sur ce côté scientifique, à essayer de se rapprocher au plus près de ce qu'est ce grain de peau, de travailler sur l'os pour essayer de se rapprocher d'une vérité, quelque part.
Donc elle part de squelettes ou de pièces de squelettes.
Oui, voilà, c'est ça.
Et elle reconstitue en 3D ce que pouvait être déjà la construction osseuse d'un visage, et ensuite elle met là-dessus des muscles, de la chair.
Tout à fait. Donc pour donner une image concrète, si vous voulez, c'est ce qu'elle m'a dit. Si jamais on prenait votre peau, le visage, et qu'on le mettait sur le mien, en fait, ça n'aurait rien à voir. C'est vraiment l'os aussi qui définit vraiment la forme.
C'est l'architecture, oui.
Et aujourd'hui, elle réalise aussi un travail d'art contemporain, comme elle l'appelle, qui est d'essayer d'imaginer une espèce de dystopie où comment nous allons évoluer, donc à travers les téléphones, à travers la chirurgie esthétique, tout ça. Donc d'avoir le regard de quelqu'un qui a travaillé sur les origines de l'humanité, sur un futur plus ou moins proche, je trouve qu'effectivement, c'est assez passionnant.
Bon, inutile de demander son numéro pour faire de la chirurgie esthétique, elle ne fait pas. Avant Snobinard, il y a eu un blog. On va raconter juste la naissance de Snobinard. Il nous reste 2 minutes. Donc, il y a eu un blog, et ensuite, Snobinard a un lien avec le Covid aussi.
Oui, tout à fait. Alors, Snobinard, ça a été... je ne peux pas vous dire la date exacte, le lancement du blog, mais c'était à peu près à l'ouverture du MoCo. Je crois que c'est 2019,
oui,
parce que c'était un de nos plus gros articles à l'époque. Puis bon, après, avec Peter, on avait pris des chemins un petit peu différents. Moi, j'ai travaillé au magazine L'Art Vu. Puis après, le Covid est arrivé et j'ai décidé de reprendre en fait ce magazine. J'ai rappelé Peter, il était OK. On a décidé de se lancer dans cette aventure et de manière plus sérieuse.
Mais dans une aventure papier.
Papier, tout à fait. Oui, oui. À l'époque, en fait, je n'aurais pas su comment faire. Et puis même, on n'aurait pas eu de toute façon les financements et je pense le caractère pour le faire. C'est vraiment
arrivé. Donc le blog a été un prêt Snobinard, de façon à effectivement montrer ce que vous saviez faire pour pouvoir trouver des financements et des partenaires. Parce qu'on verra
forcément.
Que c'est un gratuit. J'ai oublié de le dire depuis le début, Snobinard est gratuit. Donc il faut que ce soit financé par ailleurs.
Oui, après, à l'époque du blog, ce n'était pas forcément pour chercher des financements, c'était plutôt pour écrire et pour montrer qu'on est là et qu'on a des choses à exprimer. Après, effectivement, il faut trouver des financements, donc ça marche comme n'importe quel magazine gratuit, c'est-à-dire à vente d'encarts publicitaires, du coup.
Bon, on verra vos partenaires plus tard, parce qu'effectivement, ça fait partie c'est une partie importante quand même de la survie de Snobinard. Vous nous avez choisi, parce que je demande aux invités de faire leur programmation musicale, vous avez choisi 2 morceaux de musique, vous voulez qu'on passe lequel là maintenant?
On peut peut passer Stuck in the Middle with You.
Alors très bien, c'est noté. Et donc on va écouter ça dans deux secondes. Je rappelle juste que vous êtes sur Radio FM+, que nous sommes avec trois invités, Anne-Sandra et Caroline qui représentent l'association Arsalé et Thibault Loucheux qui lui est un des papas de Snobinard. À tout de suite, on se retrouve tout de suite après le petit morceau de musique que vous avez choisi.
I fall off my chair and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found out you're a selfish man, and your friends they all come calling, slap you on the back and say, sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you.
Vous êtes bien toujours, si vous êtes encore à l'écoute, mais j'espère parce qu'on ne dit que des choses passionnantes dans cette émission, dans Revenant de l'Expo sur Radio FM+. Alors, aujourd'hui, Thibault Loucheux est le premier qui est parlé, puisque c'est l'un des cofondateurs de Snobinard et que l'émission est en partie consacrée à Snobinard. Et nous avons avec nous Anne-Sandra et Caroline, donc Anne-Sandra Keff et Caroline Godenzi, qui sont ce sont les rouages d'une association qui s'appelle Arsalé. J'allais vous demander, est-ce que vous connaissez, vous, cette revue ?
Oh oui, je me rue dessus dès qu'elle sort. Non, c'est une revue vraiment extrêmement qualitative et les articles sont très intéressants. J'essaie d'avoir un exemplaire dès que ça sort, en ce qui me concerne. Et puis le fait effectivement que ça soit très bien distribué et gratuit, c'est quand même quelque chose de, voilà, de très important. Même, je le conseille souvent lorsque je donne des formations en histoire de l'art, de lire Snobinard à mes élèves.
Oui, c'est voilà. Une bonne référence, effectivement, et facile d'accès. C'est vrai qu'on peut le trouver et c'est un bel objet, effectivement.
Est-ce que vous l'avez vu évoluer, vous, en 2 ans? Puisque la revue a 2 ans à peu près. Hein,
2 ans et demi, exactement.
2 ans et demi, oui.
Oui, oui, oui. Mais, alors, évoluer, non, parce que j'ai trouvé qu'elle était finalement qualitative dès le départ. Donc, ça continue, c'est une continuité. Mais oui, les articles sont toujours très intéressants et effectivement, c'est quelque chose qui, je trouve, est important, même au niveau de la culture à Montpellier. C'est voilà. Non, l'évolution, non, parce que c'était tout de suite une très bonne revue.
Merci. Vous avez déjà presque une référence. Ouais. Déjà.
Cela dit, je sais que toutes les deux, en tout cas pour Art Salier, vous travaillez énormément avec les réseaux,
oui.
Parce que c'est quand même des modes de communication moderne, contemporain, oui. Que de plus en plus de gens de tous âges y adhèrent. Est-ce que c'est utile pour vous quand même encore le papier et d'avoir une revue comme ça?
Oui, tout à fait.
Ah bah oui, mais on travaille encore, nous, beaucoup avec le papier, même si on s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, le papier, enfin en tout cas pour ma part, ça reste quand même la base, effectivement. Donc ça permet d'avoir des références, d'avoir des choses qui restent marquées quand même.
Alors je suppose que c'est en termes de diffusion des informations sur les artistes que vous exposez, à peu près une fois, voire deux fois par an,
oui.
Mais aussi de contact avec la presse. De temps en temps, il faut bien que la presse annonce.
Ah oui, 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 effectivement. En général, quand on a une exposition, de toute manière, on envoie toujours un communiqué de presse à notre fichier qui est composé de presse papier, de radio... et également, voilà, de la presse traditionnelle, entre guillemets. Et c'est vrai que ce type de papier, enfin de magazine type Snobinard, effectivement, ça apporte beaucoup, même au niveau des agendas, etc. Enfin, lorsque vous annoncez des expositions, c'est quelque chose qui est très important pour justement les personnes qui ont des expositions à annoncer.
Vous avez Thibault Loucheux en face de vous, vous pouvez lui cirer les pompes.
C'est ce qu'on n'arrête pas de faire, hein.
Pour la prochaine expo, comme ça, il se souviendra de vous, voilà. Mettra des visages. Bon,
après, on n'est voilà. Peut-être pas au niveau des expos présentées pour l'instant, mais peut-être un jour, ça viendra.
Alors, il n'y a pas de hiérarchie.
Il n'y a pas de hiérarchie. Alors, ça, c'est une bonne chose. Et par ailleurs, il y a peut-être un délai quand même. Il faut vous prévenir d'une expo. À quel moment? Je suppose que vous avez, entre guillemets, vos abonnés, les gens qui très régulièrement vous envoient les informations. Mais les gens qui exposent plus ponctuellement, il faut s'ils veulent avoir une chance de parler dans l'agenda, est-ce qu'il faut vous envoyer ça quand?
Alors, on n'a pas d'agenda, donc comme ça, au moins, ça règle le problème.
Voilà. Vous annoncez des expos quand même, ou vous annoncez des...
Ça arrive qu'on annonce des expos, oui. Effectivement, mais la principale chose qu'on fait, ce sont des critiques.
Des critiques et des articles de fond, oui.
Voilà, ce qu'on aime faire, c'est aller voir l'exposition pour ensuite en parler. Sinon, on reste en surface et on y trouve moins d'intérêt, tout simplement. Après, évidemment, ça nous arrive d'en annoncer quand même.
De temps en temps.
De temps en temps, tout à fait.
Je reviens donc sur le magazine, qui, je le disais, est vraiment magnifique. C'est 68 pages, un quadrichromie, couverture, j'allais dire satinée ou...
Mat.
Mat, oui, voilà.
Pelliculage mat.
Et gratuit. Donc, ça paraît tous les 2 mois. On retrouve le côté, comme disent les Anglais, poche, c'est-à-dire très élégant, très chic, que vous revendiquez. Mais... moi, ça me donne l'impression toujours un peu de le voler quand je le prends. Parce que ça paraît invraisemblable qu'un truc comme ça soit à disposition.
C'est vrai que vous n'êtes pas la seule à nous faire cette remarque. Mais en fait, comme on prend à cœur ce qu'on écrit, on a envie de le mettre en avant. Puis ça revient un petit peu à ce qu'on disait aussi autour du dandysme, tout ça, faire les choses bien, faire les choses belles, c'est important aussi. Moi, je pense qu'il faut que je m'habille bien pour pouvoir bien écrire. Et je pense que pour que l'écrit soit mis en valeur, eh ben, il faut que ce soit sur un bel objet. Et en plus, bah, que ce soit pour les lecteurs ou pour nos clients aussi, c'est important d'avoir un bel objet en main, d'être
d'autant
bien mis en valeur.
D'autant plus que c'est vous qui diffusez. Donc c'est vous présentez, oui. Le journal, et c'est vrai que, puisque vous êtes cofondateur, mais c'est aussi vous qui prenez votre petite voiture pour aller faire des distributions quand même assez largement dans l'Hérault.
Alors, pas que dans l'Hérault, parce qu'on couvre un territoire qui va d'Avignon à Sète, donc ça comprend Saint-Rémy-de-Provence, Arles, Uzès, Nîmes, Montpellier, voilà, toutes ces villes-là, Sète évidemment, Pézenas. Donc oui, effectivement, tous les 2 mois, on prend la voiture, on prend les diables et on va livrer nos points de dépôt.
Et donc, le diable est dans les détails, c'est connu.
Oui, Exactement.
Dans les coffres, dans votre cas.
Et ça nous permet du coup d'avoir une livraison qui est optimale, parce que je sais exactement où le magazine part et où il ne part pas, et donc de l'adapter aussi en fonction des saisons. Tout ça, c'est très important, parce qu'il peut arriver qu'on voit aussi dans la rue des magazines qui traînent, etc. Ça fait toujours de la peine. Je ne parle pas du nôtre, parce que nous, du coup, on a cette livraison optimale. Mais bon, du coup, ça fait toujours un petit peu de la peine de voir des journaux comme ça par terre ou dans les poubelles. Nous, on imprime ce qui est important d'imprimer et ce qui est efficace pour telle saison.
Est-ce que vous êtes resté fidèle à votre projet initial? Donc le premier numéro, 12 juillet 2021. Oui. C'est la date de naissance officielle, la présentation
du magazine papier.
Du magazine papier. Est-ce que vous êtes resté toujours dans la même optique ou est-ce que vous le faites évoluer? Là, vous m'avez parlé des saisons en me disant selon les saisons, c'est qu'on peut distribuer là, pas là et ça. Est-ce que c'est pareil dans le contenu du journal?
Alors, le magazine a largement évolué. Comme je vous disais en début d'émission, au départ, on avait une partie art de vivre et une partie culture qui était à peu près équivalente. Là, aujourd'hui, après, la partie culture a pris de plus en plus de place et maintenant, la partie art contemporain et spectacle vivant ont pris de plus en plus de place, tout simplement parce qu'on a décidé d'assumer nos domaines d'expertise avec Peter et que ça provoquait du coup un intérêt plus important auprès du lecteur et quelque chose de plus efficace et en même temps avec plus de fond. C'est très important pour nous.
Mais est-ce que c'est le même public? Est-ce que c'est le même lectorat?
Oui, c'est... Je pense que peut-être que nos lecteurs les plus fidèles ont évolué avec nous et au final, on a plutôt des très bon retour justement sur cette évolution du magazine. On écrit de plus en plus, on essaie de faire des articles de plus en plus consistants. Justement, les dossiers sont apparus, la critique sont de plus en plus longues. Donc voilà, je pense que les gens sont demandeurs de ça. Ça manque à Montpellier. Il n'y a pas aujourd'hui énormément de critiques. Je parle surtout en papier parce que j'ai des confrères qui écrivent des critiques passionnantes sur Internet. Mais en papier, on trouvait que ça manquait. Et aujourd'hui, on a une belle place et on est content.
Est-ce que le blog a survécu à ça?
Le blog, c'est pas vraiment un blog, on va dire.
Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il y a toujours la possibilité, effectivement, de retrouver Snobinard sur Internet?
Tout à fait. On a un site Internet sur lequel on essaie de mettre de l'actualité tous les jours, des articles de fond aussi, nos interviews. Voilà, c'est un site qui est nourri aussi par les réseaux sociaux. On utilise les réseaux sociaux aussi pour... vous pouvez nous suivre, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux.
Donnez-nous les coordonnées, vous pouvez, c'est l'occasion.
Vous tapez Snobinard, vous allez bien trouver le magazine.
Ça va arriver tout seul.
mais bon, en tout cas, voilà, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité du territoire,
alors,
vous pouvez nous suivre, bien
pour
sûr.
Avoir fait il y a longtemps de la presse écrite, mensuelle, je sais le travail que ça demande, parce que j'ai écrit de nombreux articles dans un journal en particulier, je sais le travail que ça demande. Vous êtes deux pour tout.
Oui.
Donc deux pour la rédaction, donc on a compris comment se répartissaient les choses entre Peter et vous pour la rédaction. Mais il y a les reportages, les photos, la mise en page, la fabrication et l'impression, le financement. Comment ça fonctionne? On va peut-être s'arrêter au mot financement après. Mais là, pour tout ce qui est de fabriquer, de donner naissance, de donner corps à cette revue, comment vous vous répartissez les tâches? Parce que vraiment, vous êtes apparemment que deux.
Oui, on n'est que deux. Alors bon, c'est beaucoup de travail, hein, je ne vais pas vous mentir, clairement. Donc on écrit tous les deux beaucoup sur le magazine. Après, voilà, chacun a ses qualités et ça nous permet de bien nous compléter. Peter, lui, a des qualités plutôt de graphiste, voilà, va s'occuper du site internet aussi, tout ça.
Il fait la mise en page?
Il fait la mise en page, tout à fait.
Je suis impressionné parce que c'est très bien fait. Tout est très bien fait. Je suis très impressionnée.
Oui, bien sûr. Après, le magazine a beaucoup évolué aussi. Et je pense que le fait qu'on soit tous les deux sur la même longueur d'onde et dans une perpétuelle remise en question, si vous voulez, ça permet au magazine d'évoluer et d'essayer de faire quelque chose de qualité. Donc voilà, après... Voilà, on se partage un petit peu le travail, on est tous les deux capables de prendre des photos, on est tous les deux capables d'écrire. Pour ce qui est de l'impression, du coup, on fait appel à quelqu'un, mais...
Ça, j'imagine que vous faites pas ça dans votre cave les vendredis soirs, du vendredi soir au dimanche, mais bon... Ouais.
Et après, y a la partie commerciale, du coup, et c'est moi plutôt qui m'en occupe.
D'accord. Alors, ça, je dis que c'est impressionnant, en même temps, c'est peut-être un avantage, parce que d'abord, vous connaissez bien tous les deux, et vous êtes sur la même longueur d'onde, et dès qu'on agrandit les équipes, ça devient peut-être des fois un peu plus compliqué.
Après, on commence à faire un petit peu appel à des pigistes parce que maintenant on a d'autres choses, on doit s'occuper en plus d'autres choses parce que bon, le magazine grandit, de plus en plus de demandes, on a de plus en plus de clients, on a de plus en plus de, voilà, beaucoup de choses. Donc bon, forcément, on aimerait que le magazine grandisse, et puis on aimerait aussi participer tout simplement, créer de l'emploi, c'est important aussi pour, sur ce territoire-là.
Mais, et l'entreprise est à ce point-là, au point de créer de l'emploi éventuellement Un demi-emploi, pour commencer.
On réfléchit, tout à fait.
Bon, sur le financement... on a bien dit que c'était un gratuit, donc encore une fois qu'on a l'impression de le voler parce qu'il est tellement beau qu'on se dit c'est pas possible, ça doit, il faut l'acheter, c'est pas, voilà. C'est un journal qui n'a pas de prix dans tous les sens du terme, mais comment vous faites pour effectivement financer? Est-ce que vous avez des aides à la création d'entreprises aux entreprises? Est-ce que vous avez des partenaires qui sont fidèles? Parce que j'imagine que l'encart n'est pas donné, donc ça veut dire une certaine fidélité. Comment les choses se passent?
Bah écoutez... Évidemment, on a reçu des aides comme n'importe quelle création d'entreprise qui nous a permis de lancer ce magazine. Après, comme tout support gratuit, le magazine est basé principalement sur la vente d'encarts publicitaires. Après, évidemment, on a aussi on commence à faire de plus en plus d'événements aussi. Bon, voilà, il y a différentes façons de gagner de l'argent. Mais bon, après, voilà, moi, je pense de toute façon que le plus important sur le magazine reste le rédactionnel. Ouais. Parce qu'après, derrière, forcément...
Ça va avec.
Ça va avec,
mais ça va aussi avec parfois un tissu industriel ou commerçant ou commercial qui peut être touché par des crises, etc. C'est pour lesquels on réduit effectivement la partie publicitaire. Est-ce que vous avez été touché par ça? Enfin, en ricochet, j'allais dire, à la situation économique actuelle?
Bah écoutez, je pense qu'on a eu à peu près tout ce qui pouvait nous arriver avec le Covid, avec...
La Covid a donné naissance au journal.
Oui, ça a donné naissance au journal, mais je ne vais pas vous dire que c'était
la
période...
Et aux ennuis, avec au bonheur et aux ennuis.
Facile. On s'est quand même retrouvé dans une situation où c'était ça, où travailler dans un domaine qui ne nous plaisait pas. Oui. Voilà, donc on a bien compris que le président nous avait demandé de nous réinventer. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, du coup, voilà, après, il y a différentes choses qui sont... D'autres catastrophes qui sont arrivées, la guerre en Ukraine, etc. Il y a eu beaucoup d'impact, effectivement, là-dessus. On a eu une augmentation terrible du prix du papier. C'est quelque chose qui était compliqué à gérer. Malgré tout, on continue à imprimer en région. Pour nous, c'est important de faire vivre la région. Voilà, on a aussi des convictions.
J'aimerais que vous nous en parliez, parce qu'effectivement, vous m'avez dit, on est en train de réfléchir à créer un demi-poste ou un poste, enfin, peu importe. Donc, participer effectivement à cet effort-là. Travailler en région, et on sait très bien qu'il y a des facilités quand on veut faire imprimer ailleurs pour beaucoup, 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 beaucoup moins cher.
Bien sûr.
Donc c'est aussi un des objectifs de ce magazine que de s'inscrire vraiment dans une fabrication locale.
Bien sûr, ça fait partie d'une cohérence en fait qu'on essaie de développer depuis le début. Et puis on se dit que si deux jeunes qui ont monté un magazine sont capables de le faire, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire aussi. Et on espère justement, je pense qu'aujourd'hui on doit se poser des questions, même au niveau écologique, c'est important de rester sur un territoire précis. Moi, c'est des choses en tout cas que ma génération on a assimilées et qui sont importantes pour nous, bien sûr.
Qu'est-ce qui fait la force du journal ?
Comme je vous disais,
le magazine, je préfère l'appeler magazine.
Je pense que c'est c'est une globalité, mais je pense que le rédactionnel fait une grande force. Parce que si vous voulez, comme ça manquait ce côté critique papier, ce côté réflexion, ce côté assez proche aussi des artistes, des structures, ça créait vraiment un intérêt.
En un mot, qu'est-ce qui vous attache à lui ?
En un mot. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre en un mot.
En deux. Allez, je suis bonne. Deux.
C'est le principal projet de ma vie pour l'instant, professionnel.
C'est ce qui vous fait avancer ?
C'est ce qui me fait avancer, tout à fait, avec d'autres choses plus personnelles. Mais en tout cas, ça, d'un point de vue professionnel, c'est ce qui me fait avancer.
Et quels sont les projets pour le journal, en dehors éventuellement de créer un demi-poste ? Vous êtes obligé de le faire à la sortie de l'émission, il va falloir que vous allez tout de suite à France Emploi, en disant, on veut créer un demi-poste.
Eh bien écoutez, on le souhaite, hein. Après, ça ne dépend pas que de nous.
Non, mais quel est quels sont les projets pour ce journal ? Comment vous le voyez évoluer ? Là, vous avez trois mots. Je suis gentille.
Comment je vois évoluer ce magazine ? Écoutez, on va chercher à continuer à travailler avec de plus en plus de structures, de plus en plus d'artistes. On aimerait effectivement avoir une équipe qui puisse justement apporter des réflexions sur différents domaines. On cherche aussi à développer le côté littérature, développer le côté cinéma, le côté musique.
Parce que les arts, il y en a beaucoup.
Voilà, c'est ça, parce que comme je vous disais, le domaine d'expertise de Peter, spectacle vivant, le mien, art contemporain, commence à faire appel un petit peu à des pigistes. Il y a eu Ulysse Terrasson qui a écrit pour nous une chronique livre dans le dernier numéro. Il y a Mathéo Filbert qui avait écrit quelque chose autour de la musique. Donc voilà, on cherche un petit peu à développer aussi les différents domaines pour que ce soit vraiment un magazine de culture en général.
En augmentant la pagination ?
Pourquoi pas ?
Ou en faisant de la place ?
Non, pourquoi pas ? De toute façon, si jamais on a de plus en plus de clients, on augmentera le nombre de pages parce qu'on ne veut pas avoir un magazine qui est rempli d'encarts publicitaires, tout simplement parce que c'est contre-productif à la fois pour le client qui achète une pub, qui se retrouve au milieu de je ne sais pas combien d'encarts, et pour le rédactionnel qui est parasité par cette quantité énorme d'informations. Donc voilà, que ce soit le client ou le rédactionnel, tout doit être mis en valeur, c'est très important.
Thibaut, je vous remercie beaucoup. On refait une petite pause musicale. Encore une fois, c'est vous qui avez choisi ce second morceau. Donc, vous allez nous le présenter.
Jane B, de Jane Birkin.
Ah ouais, super. À tout de suite. Vous êtes bien dans En revenant de l'Expo, il est un peu plus de 14h, nous sommes vendredi. Si vous avez raté le début, c'est pas grave, vous pourrez réécouter dimanche à 20h. Et si vous êtes en train d'écouter dimanche à 20h, ça veut dire que la première diffusion était vendredi à 14h. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, vous êtes bien sur Radio FM+. Nous sommes avec Thibaut Loucheux, qui est l'un des deux fondateurs du très beau magazine Snobinard, dont nous venons de parler longuement, et avec deux dames, drôles de dames, Anne-Sandra Kieff et Caroline Godenzi. Alors, je disais qu'ils représentent l'association Art Salé, chaque année font une, voire deux expositions, quand c'est possible, mais ça ne l'est pas toujours. Et cette année, vous avez une exposition dans le bâtiment même de cette radio, au Carousel.
Tout à fait.
Alors, Anne-Sandra.
Alors, donc, effectivement, depuis le 1er décembre, on a la chance de pouvoir exposer donc deux artistes au Carrousel, donc cours Gambetta à Montpellier. Cette exposition porte le titre de Béraud et Bureau, donc du nom des deux artistes présentés, Jean Béraud et Mathieu Bureau.
Nous reviendrons sur cette exposition tout à l'heure, mais c'est la raison de votre présence ici.
Tout à fait.
Le fait que vous exposiez au Carrousel et que vous ayez, vous, harcelé une exposition en ce moment, c'est, je l'ai bien dit, pas tous les jours, mais quand même à peu près une fois par an. Drôle de dame.
Voilà.
Drôle d'idée pour un drôle de titre. Pourquoi harcelé ?
Alors,
ça c'est le côté méditerranéen. C'est le côté pour la Méditerranée. On s'est dit qu'on voulait mettre un peu de piquant, mais pas trop. Donc du coup, salé, ça donne ce côté un peu doux. Voilà, c'est.
Ça aurait pu être arsablé.
Arsablé ou ouais, ça aurait pu être un peu trop clivant, mais arsalé, ça laisse quand même imaginer pas mal de choses.
D'accord. Ça n'a pas de rapport, par exemple, avec l'Afrique ou parce que vous aviez fait une grosse exposition alors, et donc il y a un salé en Afrique. Hein, donc,
tout à fait. Non, ouais. Là, on a plutôt, enfin, comme l'association est de Montpellier et qu'on est proche de la Camargue, on s'était aussi dit que ça avait un petit clin d'œil, voilà, au niveau du sel. Et puis le sel et l'inverse, voilà, on voulait arsaler de l'art qui. Enfin, on cherchait des artistes qui étaient un petit peu piquants, quoi. Voilà, un petit peu.
Qui dérange un petit peu.
Un petit peu, parfois.
Qui apporte la petite touche en plus, quoi.
Voilà.
C'est ça, voilà.
Alors, pourquoi l'association Art Salé ? Parce qu'on peut montrer des artistes en ayant tout simplement une galerie. Alors, c'est vrai qu'entre une association dédiée et une galerie, il y a un pas.
Oui.
Mais vous ne vous sentiez pas de faire toutes les deux une.
Alors, bah, déjà, voilà, on a monté cette association ensemble voilà, pour présenter une première exposition, donc en 2017. Qui s'est déroulé boulevard du Jeu de Paume dans le local qui est actuellement où actuellement le Grain des Mots
est réfugié
voilà
c'est ça.
Donc c'était en 2017, c'était une exposition qui présentait le travail de Philippe Jacques, un artiste montpelliérain né sur le continent africain, il est né en Algérie, et on a donc présenté les œuvres de Philippe en parallèle on les a présentées avec les œuvres d'un autre artiste, un artiste sud-africain qui s'appelle Gavin Young et qui nous a fait l'honneur de nous prêter des œuvres pour cette exposition. Voilà, ça c'était en 2017.
Vous aviez tapé très fort. Hein,
voilà, là c'est directement.
Ça a permis effectivement de poser un peu les jalons d'Art Salé et d'avoir déjà une première reconnaissance, en tout cas de la ville et de la métropole, puisque ça a attiré énormément de monde. Et c'est vrai que la proposition et le lieu étaient bien combinés et on est resté 2 mois.
C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait.
C'est lourd, ça,
deux mois. C'était le lancement. Oui, c'est long.
C'est long et c'est lourd parce qu'il faut effectivement être présent.
Oui, tout à fait.
Il faut que ce soit ouvert pour que les gens puissent voir et rentrer.
Donc alors, on était aidés par une jeune stagiaire qui nous a bien aidés, quelqu'un qui faisait des études en médiation culturelle.
Voilà.
Et puis nous, bénévoles et aussi passionnés, justement, on a effectivement monté cette exposition et on l'a présentée. On a même eu des écoles qui sont venues
visiter. On a fait, des rencontres avec des écoles.
Voilà.
Ouais. Et puis ensuite, ça s'est poursuivi parce que vous avez quand même dans votre démarche l'envie, un peu comme Snobinar d'ailleurs, d'être le plus ouvert possible sur des publics différents, enfin amateurs, si ce n'est amateurs curieux. Et vous avez aussi une démarche qui va vers les enfants.
Oui, ça je vais te laisser.
Alors oui, énormément. Alors ça vient aussi de nos formations personnelles aussi. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur du jeune public, dans le spectacle vivant, et c'est vrai que je trouve que ça crée une cohérence quand on propose un travail d'artiste, de l'expliquer et de essayer de montrer comment on peut le pratiquer aux enfants. C'est le jeune public, c'est de la curiosité, et toujours, ils apprennent énormément de choses, ils sont très curieux.
Les enfants sont des éponges.
Exactement, et... ils ont envie tout le temps de découvrir des choses. Donc, on essaie vraiment de créer des parallèles avec les artistes qui sont eux aussi en demande et qui, enfin, en tout cas, ceux avec qui on a travaillé, ont toujours été très réceptifs et ont l'habitude. Et ils ont ce côté très pédagogue et cette envie de partager leur travail.
Et les enfants adhèrent immédiatement.
Complètement.
Et ça peut faire naître chez eux l'envie d'en savoir plus, évidemment, sur les artistes avec lesquels ils vont travailler, mais aussi sur la pratique en général.
Exactement, ça ouvre le champ des possibles. Pas juste de la vue, mais de la pratique avec...
Dès qu'on a monté cette association, c'est effectivement l'éducation artistique, entre guillemets, oui. Qui a été... on s'est tout de suite mis d'accord.
Éducation populaire et artistique.
Voilà, oui, c'est complètement. Ça. Pour nous, c'est très important d'ouvrir aux enfants, de leur montrer des choses un petit peu différentes, et puis en plus de leur faire pratiquer aussi parfois, parce qu'on a organisé pas mal d'ateliers pédagogiques, oui. Et d'ateliers créatifs, dont certains avec des street artistes de Montpellier. Ça, c'était lors de notre exposition qui s'appelait Biotope 2.0 et qui a eu lieu à la Maison de la Coquille à Jacou.
Alors, il faut préciser qu'effectivement, dans la mesure où vous n'avez pas de galerie,
oui,
à chaque fois, aller, vous changez.
On se déplace.
Alors, vous voyez ça comme une opportunité, mais vous êtes quand même itinérante, quoi.
Alors, on est itinérante, effectivement. C'est une opportunité dans le sens où, effectivement, c'est toujours très intéressant de pouvoir exposer dans des lieux différents. En revanche, parfois, au niveau, on va dire, matériel et au niveau organisationnel, ça peut poser effectivement certains soucis.
C'est compliqué. Il faut trouver des lieux, il faut que le budget accepte le prix d'un loyer. Il faut que ce soit des lieux suffisamment visibles pour que les gens puissent venir.
Tout à fait.
Vous avez quand même fait une exposition qui a marqué, me semble-t-il, en 2021. Bah, c'est quelques mois après la naissance de Snobinard, qui s'appelait Made in Africa. Oui. Oui, alors, dans un lieu prestigieux, pour le coup.
Oui.
Vous l'aviez vu.
Je l'ai vu, tout à fait. On avait écrit dessus dans le magazine.
Oui. Effectivement, oui. On a exposé, donc on a eu la chance, c'était déjà pour resituer un petit peu, c'était dans le cadre du sommet Afrique-France. On a été soutenu par la ville et par la métropole pour ce projet. Et donc on a eu la chance que deux collectionneurs d'art contemporain africain nous fassent confiance et nous
mettent à disposition des œuvres qu'on a pu exposer, effectivement.
De très grands artistes
africains. On a eu la chance même d'exposer un Chéri Samba. des photos de Malik Sidibé. Donc c'est vrai qu'on...
Photographe malien.
Exactement.
Décédé aujourd'hui, mais qui a... Je ne vais pas dire qu'il a lancé la mode, mais il a fait partie de ces... studio photo.
Oui. Il a laissé une empreinte, effectivement.
Voilà, qui dans les années 50 fleurissait au Mali, mais lui, il a laissé une véritable empreinte. Mmh. Et derrière ça, il y a de jeunes photographes qui s'en inspirent. Je pense à Fatoumata Diabaté, qui elle maintenant est dans une autre voie, le studio de photo du Mali, les studios photo du Mali étaient très connus et ont fait l'objet d'ailleurs de nombreuses publications, études et expositions.
Tout à fait. Et donc, lors de cette expo, on a eu pas mal de... Enfin, on a organisé, il n'y avait pas que l'expo, il y avait aussi
On a mis à cœur, on avait à cœur de proposer des animations, des conférences, des ateliers pour les enfants. On a aussi recréé à notre petite échelle un studio photo aussi.
Oui, avec Alexandra Gonzalez, la photographe qui nous a aidés, qui a pris les photos à la manière, justement, d'un studio
qui est aussi blonde que Fatoumata Diabaté et brune.
Voilà, c'est ça. Et on mettait à disposition des personnes qui voulaient bien se faire photographier des accessoires. Voilà, c'était très sympathique. Et puis,
on voulait faire vivre, effectivement, cette exposition, puisqu'on avait énormément de matière à montrer. Donc, il fallait
Il y avait les deux étages rue Foch, c'était chez Capifrance.
Voilà, rue Foch.
Donc, était occupé. Et puis, il y a eu un vide. Après Made in Africa, il y a eu un vide, il y a eu une année blanche, si je puis dire.
Une année blanche.
Après une exposition
exactement,
africaine,
oui, alors
blanche.
Peut-être... on avait toujours ces projets, peut-être aussi au niveau financier, c'était un peu plus compliqué à cette période-là pour l'association. Et on a également... avant Made in Africa, on avait eu une expo, un pop-up store de Noël. Oui. Donc avec pas mal de street artists, justement, de Montpellier. C'était rue de la Carbonnerie, je te peut-être...
Oui, là, on a fait effectivement un pop-up store avec un collectif d'artistes.
C'est quoi un pop-up store?
C'est-à-dire qu'on a eu à cœur de proposer le travail de différents artistes qui pouvaient vendre leurs œuvres à des prix plutôt raisonnables, mais ça permettait une certaine accessibilité, en tout cas aux personnes qui voulaient faire des cadeaux de Noël, par exemple, ou tout simplement pour avoir une œuvre à mettre chez soi.
Ça tombe bien, c'est en ce moment. On rappelle qu'il y a une exposition ici au Carrousel, toujours organisée par Arsalé,
voilà, exactement.
Les œuvres sont évidemment en vente.
Voilà.
Tout à fait. Et là, oui, on a fait beaucoup d'animations. On a travaillé aussi avec Monsieur Garcin. Oui. Qui a fait des séances de dédicaces, des photos, des choses comme ça. Donc ça, ça a très très bien marché. Après, sur l'année blanche, ça a été compliqué, sachant que Arsalé, nous, on fait des demandes de subventions, des choses comme ça. Mais
vous
on
avez
travaille
des adhésions
beaucoup aussi aux
et
adhésions.
Et c'est complété, largement complété par des aides de la mairie ou de la métropole.
Exactement.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai que l'année blanche est aussi due le Covid et tout ça, des choses comme ça. Les gens n'en avaient pas forcément non plus l'argent à disposition. Donc on a pris le parti, effectivement, de ne pas faire d'exposition.
Cela dit,
et
cette
voilà
année,
de retour, par contre.
De retour,
voilà.
2023, avec... deux expositions, une très courte sur un week-end,
exactement.
Mais dans un lieu quand même assez mythique,
oui,
en
oui.
tout cas qui commence à devenir très connu, et puis ici au Carrousel qui lui a été inauguré, c'est un lieu qui a été inauguré le 15 octobre.
Voilà.
D'ailleurs merci je crois au Carrousel,
ah oui,
c'est une première exposition, ils ont
merci
pris des risques.
Voilà.
Donc la première expo c'était au printemps, au mois de mai je crois.
Oui. C'était au mois de mai, donc oui, dans un endroit oui, assez exceptionnel, et on a exposé nous dans un bus londonien. Donc,
c'était le côté 473.
Ouais, c'était le côté très très original, et les artistes bien sûr nous ont suivis. On a exposé une dizaine d'artistes qui nous avaient.
Mais c'était une exposition collective.
Collective, oui. Exactement. Et qui se sont adaptés aux contraintes du bus au niveau des formats.
Exposer dans un bus, c'est pas ça.
Voilà.
Oui, c'est un bus qui a été décoré par le street artiste Speedy Graffito. Et qui a une patine, parce que c'était dans les années
Ça date,
quand on était jeunes.
Voilà.
C'est un bus qui est resté très longtemps sur les quais de Seine, dans le 13e arrondissement, près du bateau phare. Et par conséquent, là, il est patiné, puisque c'est quelque chose comme du street art, voilà, qui est fait pour être dehors, en fait. Hein, donc, qui est créé...
Qui vieillit, qui prend sa patine dans la rue.
Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est très sympa d'exposer dans ce type d'endroit.
C'est un peu le sort, d'ailleurs, de tout ce qui est street art.
Exactement.
Même si maintenant, les street arteurs rêvent de rentrer dans les musées,
oui.
C'est vrai que leurs œuvres vivent aussi dehors et donc évoluent
c'est
avec...
C'est tout l'intérêt. Ils évoluent avec le paysage urbain et tout ça, donc voilà. Ça, c'est sûr.
Alors, parlez-nous donc de cette exposition. Vous nous avez dit tout à l'heure Béraud et Bureau. Alors, ils sont frères, ils sont cousins
Aucunement. Non. Jean Béraud est un architecte au départ, artiste maintenant, mais qui est de Béziers et qui a eu une attache à La Rochelle, d'où en fait la thématique de la majorité des œuvres présentées. Donc,
présentées, parce que je crois qu'il a une œuvre très large.
Très large.
Il y a des marins quand même dans son œuvre qui ne sont pas exposés.
Qui sont pas exposés actuellement au Carrousel. En revanche, nous exposons le crabe, qui est un motif que Jean affectionne particulièrement et qu'il a développé, qu'il a travaillé, on va dire...
Déstructuré, restructuré...
Voilà.
Décortiqué.
Décortiqué.
Démodelé, si on peut dire.
Voilà. Et effectivement, pour presque jusqu'à l'abstraction, finalement. Donc on a beaucoup de tableaux.
Comme des tissus un peu à terme, effectivement.
Oui,
les œuvres.
Vrai que c'est un côté très décoratif, très intéressant au niveau, effectivement, de la démarche artistique, mais aussi qui finit par, au niveau décoratif, nous, c'est son travail.
On pourrait en faire des tissus, des foulards,
oui,
etc.
C'est vrai, tout à fait.
Mais c'est un long travail, parce qu'effectivement, il est parti d'un vrai crabe, je crois.
Oui,
c'est ça. Qui voulait manger une fois dans sa dans sa cuisine avant de le plonger dans l'eau, effectivement, ça l'a interpellé.
Il l'a
dessiné de suite.
Et ensuite,
et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu tout ce processus de création autour de ce crabe.
Et l'autre, alors c'est une. Alors je crois que Jean Béraud doit avoir entre 70 et 75 ans.
C'est ça.
Il a pris sa retraite donc à Béziers, mais il était originaire de La Rochelle. D'une famille d'artistes d'ailleurs aussi, je crois.
C'est ça.
Et Bureau, lui, c'est pas la même génération.
Ah non, Mathieu Bureau est très jeune, puisqu'il est né en 1976. 75.
Oui, 75, oui ça
doit voilà, et alors son travail.
Il a 48 ans, oui, c'est ça. Je suis en train de faire le calcul, oui.
C'est ça.
Voilà, alors son travail est au niveau de la technique, c'est très très mixte puisque il utilise des matériaux qui peuvent être des papiers, mais aussi du drap. Enfin voilà, et même au niveau de la création, il ne se refuse aucun médium quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'il récupère, par rapport au moment où il a envie de créer, que ça c'est pas de la peinture. Il y a de la peinture, il y a de l'aquarelle, il y a de l'encre, etc. Donc au niveau de la technique, c'est très mixte, mais il ne se refuse aucune technique, en fait. Non. Et par conséquent, ça fait des œuvres très, très pointues, on va dire, au niveau de la qualité esthétique. Mais Mathieu Bureau, il travaille aussi beaucoup sur le mot, puisqu'il il écrit.
Donc il a exposé certains de ses...
Il a exposé certains de ses écrits, et c'est vrai que la salle qu'il occupe, voilà, comme une espèce de petite pièce intime. On rentre complètement dans son univers.
C'est très poétique.
C'est très poétique. Il y a des objets assez proches, finalement, de ready-made, puisque c'est... Mais toujours avec une très large touche d'humour.
Et de poésie, des fois.
De poésie,
oui,
d'humour.
Toujours décalé un petit peu.
Toujours décalé, mais voilà. Et les mots qu'il met en scène dans cette salle d'exposition valent vraiment le coup d'être lus. Et on voit beaucoup de visiteurs qui s'arrêtent justement.
Oui, ça interpelle. Il faut le temps de.
Et là, c'est là qu'on comprend son humeur. Et c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup plu, ce travail des mots, en fait.
L'exposition dure jusqu'à quand ?
Jusqu'au 22 décembre.
Très bien, donc il nous reste encore un petit peu de temps.
Oui, visite du lundi au vendredi.
L'entrée est gratuite, de 10h à midi, de 14h à 18h,
exactement.
Au Carousel, c'est au boulevard Carousel. Gambetta, c'est le nouveau lieu qui s'est ouvert donc, ici où se trouve notre radio, donc le Carousel, c'est un lieu magnifique, belle restauration. Si nous sommes, alors je vais vous poser la question à tous les trois, mais alors là, vraiment, vous n'avez vraiment qu'une minute pour répondre parce qu'on arrive au bout de l'émission. Quelle serait votre commande au Père Noël à chacun et à chacune ? Plus d'adhésion.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est tout à fait possible.
Voilà, exactement.
Donc, une
prochaine
bien.
Belle exposition à venir pour l'année 2024.
Voilà, aussi. Ouais.
Et donc, Arsalé, donc adhérer, ça ne vaut pas très cher, ça vaut 20 euros, mais vous aidez vraiment cette association à continuer son travail.
Exactement.
Ça a laissé le temps à Thibaut de réfléchir peut-être à ce qu'il pourrait commander au Père Noël.
Un petit peu de sérénité dans cette période compliquée, et notamment pour la culture, peut-être.
Complètement.
Je pense que, en plus, que ce soit vous ou nous, on y gagnerait beaucoup.
Complètement, oui.
Je vous remercie tous les trois d'être venus. L'émission
Merci.
Est terminée. On remercie beaucoup Adrien d'avoir assuré la technique. On se dit à la prochaine fois. Quoi d'autre ? Rien. Je vous le dirai la prochaine fois si je pense à quelque chose. Continuez à écouter Radio Plus FM. Merci mille fois et à tout bientôt.
In the morning with initiative to move, so I make it harder.
Don't hold back.
If you think about it, so many people do. Be cool and look smarter.
Don't hold back.
And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs.
Don't hold back.
Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care.
Don't hold back.
The world,
you're holding back.
The time has come to. The world,
you're holding back.
The time has come to. A world, the time has come to galvanize. Come on, come on, come on. Too much, you may stumble, trip up, fall on your face.
Don't hold back.
You think it's time you get up.
Crunch
time, back and sit up. Come on, keep pace.
Don't hold back.
Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit.
Don't hold back.
Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pick.
Don't hold back.
The world,
you're holding back.
The time has come to. The world,
you're holding back.
The time has come to. A world,
you're holding back.
The time has come to galvanize. Come on, come on, come on.